Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, comme toutes les semaines, l'émission que vous attendez tous parce qu'elle vous raconte des histoires. Et aujourd'hui, alors c'est des contes parfois, des fois des histoires, des nouvelles. Aujourd'hui, ce sont des histoires d'animaux. Ah, chouette, vous allez me dire, par exemple, je sais pas moi, la chèvre de Monsieur Seguin. Mais non, là c'est des tout petits animaux, ce sont des insectes. Sans doute, vous connaissez ce célèbre savant français qui est étudié dans les écoles primaires au Japon et qui est présenté partout dans beaucoup de pays, en Corée, aux États-Unis, en Russie, comme l'exemple même de l'homme de science et de l'homme de lettres réunis. Bon, en France, il est un peu moins connu, mais enfin quand même, les souvenirs entomologistes, oui, c'est Jean-Henri Fabre, qui est né en 1823, donc vous voyez, ça fait 200 ans, donc c'est un homme d'un autre siècle, même de deux siècles avant nous, et c'est un homme qui a toujours adoré observer les animaux depuis tout petit. Un papillon, une sauterelle, il y va, il les regarde, et puis ça lui a continué toute sa vie. C'est un des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal, l'écophysiologie. Que pensait Jean Rostand de cet homme? Un grand savant qui pense en philosophe, voire en artiste, sent et s'exprime en poète. Et oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, ça a été un poète aussi, qui a écrit en occitan. Bref, on va pas trop en parler de Jean-Henri Fabre, de sa vie, bien qu'elle mériterait une émission ou deux, puisque on a quand même beaucoup de matière. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est de la matière fécale, oui. Désolé d'être comme ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui se passe autour d'une bouse de vache. Vous savez que dans la nature, et notamment dans le monde des insectes, eh bien, la bouse qui tombe, bon, des fois d'une vache, mais ça peut être aussi une mule ou un cheval. Bref, c'est un trésor pour tout un tas d'animaux. Et Jean-Henri Fabre, donc notre entomologiste qui observe ça, eh bien, va le raconter à sa manière. Alors voilà, tout commence simplement tout près, dans un pré. Une bouse vient de tomber. Quel empressement autour d'une même bouse. Avant que le soleil soit devenu trop chaud, ils sont là par centaines. Grands et petits, pêle-mêle, de toute espèce, de toute forme, de toute taille, se hâtant de se tailler une part dans le gâteau commun. Il y en a qui travaillent à ciel ouvert et ratissent la surface. Il y en a qui s'ouvrent des galeries dans l'épaisseur même du monceau à la recherche des filons de choix. D'autres exploitent la couche inférieure pour enfouir sans délai leur butin dans le sol sous-jacent. D'autres, les plus petits, émiettent à l'écart un lopin éboulé des grandes fouilles de leurs forts collaborateurs. Quelques-uns, les nouveaux venus et les plus affamés sans doute, consomment sur place. Mais le plus grand nombre songe à se faire un avoir qui lui permette de couler de longs jours dans l'abondance, au fond d'une sûre retraite. Une bouse, fraîche à point, ne se trouve pas quand on veut au milieu des plaines stériles du thym, telle aubaine est une vraie bénédiction du ciel. Les favorisés du sort ont seuls un pareil lot. Aussi, les richesses d'aujourd'hui sont-elles prudemment mises en magasin. Le fumet stercoraire. Alors, je fais une petite précision. Le fumet stercoraire, c'est l'odeur de la bouse. Le fumet stercoraire a porté l'heureuse nouvelle à 1 kilomètre à la ronde. Et tous sont accourus s'amasser des provisions. Quelques retardataires arrivent encore au vol ou pédestrement. Quel est celui-ci qui trottine vers le morceau, craignant d'arriver trop tard? Ses longues pattes se meuvent avec une brusque gaucherie, comme poussée par une mécanique que l'insecte aurait dans le ventre. Ses petites antennes rousses épanouissent leur éventail, signe d'inquiète convoitise. Il arrive. Il est arrivé, non sans culbuter quelques convives. C'est le scarabée sacré, tout de noir habillé, le plus gros et le plus célèbre de nos bousiers. Le voilà, attablé côte à côte avec ses confrères qui, du plat de leurs larges pattes antérieures, donnent à petits coups la dernière façon à leur boule, ou bien l'enrichissent d'une dernière couche avant de se retirer et d'aller jouir en paix du fruit de leur travail. Suivons dans toutes ces phases la confection de la fameuse boule. Le chaperon, c'est-à-dire le bord de la tête, large et plate, est crénelé de 6 dentelures angulaires rangées en demi-cercle. C'est là l'outil de fouille et de dépècement. Le râteau qui soulève et rejette les fibres végétales non nutritives va au meilleur, le ratisse et le rassemble. Un choix est ainsi fait car pour ces fins connaisseurs, ceci vaut mieux que cela. Choix par à peu près si le scarabée s'occupe de ses propres victuailles, mais d'une scrupuleuse rigueur s'il faut confectionner la boule maternelle, creusée d'une niche centrale où l'œuf doit éclore. Alors, tout brin fibreux est soigneusement rejeté, et la quintessence stercoraire seule cueillie pour bâtir la couche interne de la cellule. À sa sortie de l'œuf, la jeune larve trouve ainsi dans la paroi même de sa loge un aliment raffiné qui lui fortifie l'estomac et lui permet d'attaquer plus tard les couches externes et grossières. Pour ses besoins à lui, le scarabée est moins difficile et se contente d'un triage en gros. Le chaperon dentelé ventre donc et fouille, élimine et rassemble un peu au hasard. Les jambes antérieures concourent puissamment à l'ouvrage. Elles sont aplaties, courbées en arc de cercle, relevées de fortes nervures et armées vers le dehors de 5 robustes dents. Faut-il faire acte de force, culbuter un obstacle, se frayer une voie au plus épais du monceau? Le bousier joue des coudes, c'est-à-dire qu'il déploie de droite et de gauche ses jambes dentelées et d'un vigoureux coup de râteau déblaye une demi-circonférence. À place faite, les mêmes pattes ont un autre genre de travail. Elles recueillent par brasser la matière râtelée par le chaperon et la conduisent sous le ventre de l'insecte, entre ses pattes postérieures, ses 4 pattes postérieures. Celles-ci sont conformées pour le métier de tourneur. Leurs jambes, surtout celles de la dernière paire, sont longues et fluettes, légèrement courbées en arc et terminées par une griffe très aiguë. Il suffit de les voir pour reconnaître en elles un compas sphérique qui, dans ses branches courbes, enlace un corps globuleux pour vérifier et corriger la forme. Leur rôle est en effet de façonner la boule. Brassée par brassée, la matière s'amasse sous le ventre, entre les 4 jambes, qui par une simple pression lui communique leur propre courbure et lui donne une première façon. Puis, par moments, la pilule dégrossit et mise en branle entre les 4 branches du double compas sphérique. Elle tourne sous le ventre du bousier, se perfectionne par la rotation. Si la couche superficielle manque de plasticité et menace de s'écailler, si quelques points trop filandreux n'obéissent pas à l'action du tour, les pattes antérieures retouchent les endroits défectueux. À petits coups de leur large battoir, elles tapent la pilule pour faire prendre corps à la couche nouvelle et emplâtrer dans la masse les brins récalcitrants. Par un soleil vif, quand l'ouvrage presse, on est émerveillé de la fébrile prestesse du tourneur. Aussi, la besogne marche-t-elle vite. C'était tantôt une maigre pilule, et c'est maintenant une bille de la grosseur d'une noix. Et ce sera tout à l'heure une boule de la grosseur d'une pomme. J'ai vu des goulus en confectionner de la grosseur du poing. Voilà certes, sur la planche, du pain pour quelques jours. Les provisions sont faites. Il s'agit maintenant de se retirer de la mêlée et d'acheminer les vivres en lieu opportun. Là commencent les traits de mœurs les plus frappants du scarabée. Sans délai, le bousier se met en route. Il embrasse la sphère de ses deux longues jambes postérieures, dont les griffes terminales implantées dans la masse servent de pivot de rotation. Il prend appui sur les jambes intermédiaires et faisant levier avec les brassards dentelés des pattes de devant, qui tour à tour pressent sur le sol, il progresse à reculons avec sa charge. Le corps incliné, la tête en bas, l'arrière train en haut. Les pattes postérieures, organe principal de la mécanique, sont dans un mouvement continuel. Elles vont et viennent, déplaçant la griffe pour changer l'axe de rotation, maintenir la charge en équilibre et la faire avancer par les poussées alternatives de droite et de gauche. À tour de rôle, la boule se trouve de la sorte en contact avec le sol par tous les points de sa surface, ce qui la perfectionne dans sa forme et donne une consistance égale à sa couche extérieure par une pression uniformément répartie. Et hardi, ça va, ça roule, on arrivera, non sans encombre cependant. Voici un premier pas difficile, le bousier s'achemine en travers d'un talus, et la lourde masse tend à suivre la pente. Mais l'insecte, pour des motifs à lui seul connus, préfère croiser cette voie naturelle. Projet audacieux, dont l'insuccès dépend d'un faux pas, d'un grain de sable troublant l'équilibre. Le faux pas est fait, la boule roule au fond de la vallée, l'insecte, culbuté par l'élan de la charge gigote, se remet sur ses jambes et accourt s'atteler à nouveau. La mécanique fonctionne de plus belle. Mais prends donc garde, étourdi, suis le creux du vallon qui t'épargnera peine et mésaventures. Le chemin y est bon, tout est uni. Ta pilule y roulera sans effort. Eh bien non. L'insecte se propose de remonter le talus qui lui a été fatal. Peut-être lui convient-il de regagner les hauteurs. À cela, je n'ai rien à dire. L'opinion du scarabée est plus clairvoyante que la mienne sur l'opportunité de se tenir en haut lieu. Prends au moins ce sentier qui, par une pente douce, te conduira là-haut. Pas du tout. S'il se trouve à proximité quelques talus bien raides, impossible à remonter, c'est celui-là que l'entêté préfère. Alors, commence le travail de Sisyphe. La boule, fardeau énorme, est péniblement hissée, pas à pas, avec mille précautions, jusqu'à une certaine hauteur, toujours à reculons. On se demande par quel miracle de statique une telle masse peut être retenue sur la pente. Ah, un mouvement mal combiné, mais en néant tant de fatigue. La boule, zoup, allez, dévale, entraînant avec elle le scarabée. L'escalade est reprise. Bientôt suivie d'une nouvelle chute. La tentative recommence, mieux conduite cette fois au passage difficile. Une maudite racine de gramen cause des précédentes culbutes et est ainsi prudemment tourné. Encore un peu, et nous y sommes, mais doucement, tout doucement. La rampe est périlleuse et un rien peut tout compromettre. Voilà que la jambe glisse, à nouveau sur un gravier poli, la boule redescend, pêle-mêle, avec le bousier. Celui-ci de recommencer avec une opiniâtreté que rien ne lasse. 10 fois, 20 fois, il tentera l'infructueuse escalade jusqu'à ce que son obstination ait triomphé des obstacles. Ou que, mieux avisé et reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il adopte le chemin en plaine. Le scarabée ne travaille pas toujours seul au charroi de sa précieuse pilule. Fréquemment, il s'adjoint un confrère. Ou pour mieux dire, c'est le confrère qui s'adjoint. Voici comment d'habitude se passe la chose. Sa boule préparée, un bousier sort de la mêlée et quitte le chantier poussant à reculons son butin. Un voisin, des derniers venus, et dont la besogne est à peine ébauchée, brusquement, laisse là son travail, et court à la boule roulante, prêter main forte à l'heureux propriétaire qui paraît accepter bénévolement le secours. Désormais, les deux compagnons travaillent en associé. À qui mieux, ils acheminent la pilule en lieu sûr. Y a-t-il eu pacte, en effet, sur le chantier, convention tacite de se partager le gâteau? Pendant que l'un pétrissait et façonnait la boule, l'autre ouvrait-il de riches filons pour en extraire des matériaux de choix et les adjoindre aux provisions communes? Je n'ai jamais surpris pareille collaboration. J'ai toujours vu chaque boussier exclusivement occupé de ses propres affaires sur les lieux d'exploitation. Donc, pour le dernier venu, aucun droit acquis. Serait-ce alors une association des deux sexes, un couple qui va se mettre en ménage? Quelque temps, je l'ai cru. Les deux bousiers, l'un par devant, l'autre par derrière, poussant de mêmes ailes, la lourde pelote me rappelait certains couplets que moulinaient dans le temps les orgues de barbarie. Pour monter notre ménage, hélas, comment ferons-nous? Toi devant et moi derrière, nous pousserons le tonneau. De par le scalpel, il m'a fallu renoncer à cette idylle de famille. Chez les scarabées, les deux sexes ne se distinguent pas l'un de l'autre, par aucune différence extérieure. J'ai donc soumis à l'autopsie les deux bousiers occupés au charroi d'une même boule. Et très souvent, ils se sont trouvés du même sexe. Ni communauté de famille, ni communauté de travail, quelle est alors la raison d'être de l'apparente société? C'est tout simplement tentative de rapt. L'empressé confrère, sous le fallacieux prétexte de donner un coup de main, nourrit le projet de détourner la boule à la première occasion. Faire sa pilule au tas demande fatigue et patience. La piller quand elle est faite, ou du moins s'imposer comme convive, est bien plus commode. Si la vigilance du propriétaire fait défaut, on prendra la fuite avec le trésor. Si l'on est surveillé de trop près, on s'attable à deux, alléguant les services rendus. Tout est profit en pareille tactique. Aussi le pillage est-il exercé comme une industrie des plus fructueuses. Les uns s'y prennent sournoisement, comme je viens de le dire. Ils accourent en aide à un confrère qui nullement n'a besoin d'eux et sous les apparences d'un charitable secours dissimulent de très indélicates convoitises. D'autres, plus hardis peut-être, plus confiants en leurs forces, vont droit au but et détroussent brutalement. À tout instant, des scènes se passent dans le genre de celle-ci. Un scarabée s'en va, paisible, tout seul, roulant sa boule, propriété légitime acquise par un travail consciencieux et patient. Un autre survient au vol, je ne sais d'où, se laisse lourdement choir. Replie sous les élytres ses ailes enfumées et du revers de ses brassards dentés culbute le propriétaire, impuissant, apparaît l'attaque dans sa posture d'attelage. Pendant que l'exproprié se démène pour se relever, l'autre se campe sur le haut de la boule, position la plus avantageuse pour repousser l'assaillant. Les brassards pliés sous sa poitrine et prêt à la riposte, il attend les événements. Le volet tourne autour de la pelote, cherchant un point favorable pour tenter l'assaut. Le voleur, lui, pivote sur le dôme de la citadelle et constamment lui fait face. Si le premier se dresse pour l'escalade, le second lui détache un coup de bras qui l'étend sur le dos. Inexpugnable du haut de son fort, l'assiégé déjouerait indéfiniment les tentatives de son adversaire si celui-ci ne changeait de tactique pour entrer en possession de son bien. La sape joue pour faire crouler la citadelle et la garnison avec. La boule, inférieurement ébranlée, chancelle et roule, entraînant avec elle le bousier pillard qui s'escrime de son mieux pour se maintenir au-dessus. Il y parvient, mais non toujours par une gymnastique précipitée qui lui fait gagner en altitude ce que la rotation du support lui fait perdre. S'il est mis à pied par un faux mouvement, les chances s'égalisent et la lutte tourne au pugilat. Voleurs et volés se prennent corps à corps, poitrine contre poitrine. Les pattes s'emmêlent et se démêlent. Les articulations s'enlacent. Les armures de cornes se choquent ou grincent avec le bruit aigre d'un métal limé. Puis, celui des deux qui parvient à renverser sur le dos son adversaire et à se dégager, à la hâte, prend position sur le haut de la boule. Le siège recommence. Tantôt par le pillard, tantôt par le pillé. Suivant que l'on décidait les chances de la lutte corps à corps. Le premier, hardi, flibustier sans doute et coureur d'aventure fréquemment à le dessus. Alors, après deux ou trois défaites, l'exproprié se lasse et revient philosophiquement au tas pour se confectionner une nouvelle pilule. Quant à l'autre, toute crainte de surprise dissipée, il s'attelle et pousse où bon lui semble la boule conquise. J'ai vu parfois survenir un troisième larron qui volait le voleur. En conscience, je n'en étais pas fâché. Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Des histoires donc de bousiers, vous l'aurez compris, hein, ces scarabées qui font des petites boules avec les bouses. Vous avez sans doute dû en observer quand vous étiez petit. Voilà, ça vient des souvenirs entomologistes de Jean-Henri Fabre. Et il y aura une suite, parce que cette histoire n'est pas finie. L'affaire de ces deux compères qui poussent la même boule aura une suite la semaine prochaine. La musique, c'était Nick Berch. Et bien, je vous dis merci pour avoir écouté. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. C'était Marco Contarobourg. Ciao.